À quoi sert la vie, peut-être à ne pas avoir de remords au moment de sa mort? Comment arriver au moment du grand voyage sans valise trop lourde à porter? C'est la question du jour dans Service Public avec vos témoignages d'ici ou de l'au-delà au 01 45 24 7000 ou bien sur notre compte Twitter Service Public FI. Plus personne ne respecte les Français. La preuve, l'agence italienne de presse ANSA s'est laissée abuser par un sondage du site parodique Le Gorafi. Selon ce sondage, 89% des hommes en France croient que le clitoris est le dernier modèle de Toyota. Comme si 89% des hommes pouvaient passer à côté de la gamme Toyota. Mais les Français savent que le clitoris n'a pas de direction assistée, problème. Si ce sondage a été tenu pour véridique, c'est peut-être parce que le Français a désormais une réputation de rustre, un être trop épais pour un sujet aussi fin. D'un coup devenu mauvais, le French Lover appartiendrait désormais au lieu de mémoire quelque part entre la Gaule et les Invalides. Les jeux de l'amour et du hasard deviendraient les jeux de l'amour au hasard, et tant mieux si ça tombe sur le clitoris. Pourtant, pendant des siècles, l'habileté déployée dans le commerce avec les femmes a constitué une part décisive de ce que Montesquieu appelait l'esprit général de la nation. Voilà pourquoi Montesquieu tenait pour français et non persan ce refus, je le cite, de contenir les femmes comprenait de brimer leur bon plaisir. Leur manquer de manière était, disait Montesquieu, la marque la plus certaine de la corruption des mœurs. Pas de bonne société pour Montesquieu sans plaisir et liberté des femmes. Dès lors, pour l'auteur de l'Esprit des lois, la question du clitoris était déjà une question politique qui trouvait sa réponse en France. Aujourd'hui, le sexe est toujours aussi politique, qu'il s'agisse du clitoris ou du point G. Tiens d'ailleurs, le point G, ce n'est pas une grande surface de bricolage ouverte le dimanche.
France Inter, Service public, Guillaume Erner.
Les regrets avant de mourir. Pour en parler, je suis en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Effez. Salut Serge.
Bonjour.
Nous sommes également en compagnie de Mathieu Corbin, psychothérapeute comportementaliste, professeur à Paris 8. Vous publiez « Vivre sans regrets, mourir sans remords » aux éditions du Seuil. Bonjour Mathieu Corbin.
Bonjour.
Et puis également Roger-Paul Droit, philosophe. Vous publiez « Si je n'avais plus qu'une heure à vivre » aux éditions Odile Jacob. Bonjour Roger-Paul Droit. L'invité va également nous rejoindre Elisabeth Lévy, journaliste qui dirige le magazine Causeur et qui publie un livre étonnant, Retour au Bercail. Mais Roger-Paul Droit, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer en quoi consiste cet exercice philosophique de vivre comme si l'on vivait son dernier moment ?
Eh bien, c'est un exercice que j'ai imaginé en reprenant un peu des exercices spirituels de l'Antiquité, mais en les transformant à ma sauce, d'une part, et en le rendant plus contemporain. Imaginons que dans 3600 secondes, tout soit terminé. Alors, nous ne sommes pas malades, nous sommes lucides, mais on sait, et c'est ça le jeu, le point de départ, le dispositif, le praticable, que ça va se terminer. Qu'est-ce qu'on éprouve ? De la panique, de la tristesse, ou au contraire de la concentration ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Alors évidemment, les réponses vont pouvoir varier, et il y a autant de réponses que d'individus, tenir la main de ceux qu'on aime, aller voir le soleil couchant, manger un dernier cassoulet, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des réponses très, très multiples, mais j'ai voulu aussi, moi, me servir de ce praticable-là pour finalement essayer de rassembler un certain nombre d'idées, dire en une heure, très vite, de façon la plus claire, la plus simple, la plus directe, ce que je crois. Voilà, ce que
philosophie, est-ce apprendre à mourir, selon vous, Roger-Paul Droit ?
Alors, c'est un vieux thème, mais si on regarde bien, au sens strict, c'est absurde. On apprend le piano, on apprend le vélo ou la clarinette, et du coup on recommence, on échoue. Si on avait quelques dizaines de vies, on pourrait dire j'ai raté celle-là, je vais apprendre mieux pour la prochaine. Etc. Bon, par définition, ça ne peut vouloir dire que deux choses. Ou bien commencer à mourir tout de suite, et il y a ça déjà chez Platon, abandonner la vie, se détourner du plaisir, mener à une espèce d'ascétisme austère, et moi je trouve pas ça très excitant, ou bien cela signifie savoir que nous allons mourir, que nous sommes mortels, et faire ce que Montaigne appelle avoir le goût de la mort en bouche. Il dit il faudrait l'avoir tout le temps, pas du tout d'une façon morbide, pas pour dire nous devons ruminer comme ça notre agonie de façon interminable, parce que c'est ce qui serait effroyable, mais tout simplement pour savoir que notre présent et tous nos instants, qu'il s'agisse d'une heure ou qu'il s'agisse d'une année, se découpent sur un fond de finitude, d'horizon borné, et qu'il n'y a de vie humaine que si on sait qu'elle est un jour finie.
On a tous à l'esprit la mort de Socrate, qui est probablement la mort fondatrice de la philosophie occidentale. Les philosophes meurent-ils différemment des autres mortels, Roger Paul Droit ?
Non, dans la mesure où il meurt vraiment, quoi, comme tout le monde. Simplement, on a effectivement en souvenir Socrate consolant ses propres disciples. Il y a des belles figures, vous savez, par exemple... Adam Smith nous raconte les derniers...
L'économiste Adam Smith, mais qui a aussi un travail de philosophe dans sa manière de concevoir l'esprit humain.
Et il nous raconte les derniers jours de Hume, qu'il a connu. Et voilà, il était très malade, il a un cancer de l'estomac, il souffre affreusement, mais il console. D'abord, les gens lui disent, tu sais, c'est rien, ça va passer. Il dit, non, je vais mourir. Et puis, ceux qui viennent le voir, il les console, c'est ses amis, il dit, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a une manière, si, je ne sais pas si elle est philosophique ou simplement digne de mourir, qui est d'affronter sa propre mort et puis de savoir que c'est finalement cela qui nous rend humains. Alors, est-ce qu'il faut accorder à cela un privilège extraordinaire ? Je crois qu'il y a une figure historique, si vous voulez, cette idée que dans les derniers moments, on dit plus la vérité. Ça, c'est plus tellement notre façon de penser, mais ça a été culturellement un grand machin où on pensait que les dernières paroles étaient plus authentiques, étaient plus vraies. Montaigne dit « on voit le fond du pot », c'est-à-dire comme si on ne triche plus, c'est le moment où on dit le vrai. Je crois qu'il y a une part de mythe culturel dans cela, mais ça a une grande importance dans l'histoire. Voilà.
Alors, si philosopher, ça n'est pas apprendre à mourir, est-ce que la psychanalyse nous permet d'apprendre à mourir, Serge Hefèse ?
Elle peut nous permettre en tout cas de se débarrasser d'un certain nombre de degrés, parce que les regrets, c'est quand même un peu les poisons de l'âme. Hein. Si on ne s'en débarrasse pas, le temps du regret, c'est le conditionnel passé. J'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su, j'aurais fait. C'est-à-dire, c'est revisiter finalement tout son passé en se disant qu'on a forcément pris la mauvaise direction, qu'on a choisi le mauvais partenaire, qu'on a choisi le mauvais travail, etc. Donc, revisiter le passé, pourquoi pas, mais si c'est pour habiter un peu mieux le présent, et comme dit Roger Paul Droit, après tout, cet exercice de se dire « je vais mourir dans 24 heures ou dans 3 jours » est un bon exercice pour pouvoir habiter réellement ce présent et se débarrasser de ses regrets.
Vous travaillez sur les peurs, notamment Serge Hefèse, en tant que psychanalyste. Est-ce qu'il est possible de ne plus avoir peur de la mort ? Est-ce qu'une psychanalyse peut avoir une incidence là-dessus ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que la psychanalyse soit autant toute puissante que cela, mais elle peut apprendre en tout cas une certaine sagesse, c'est-à-dire ne pas regretter ce qu'on n'a pas fait, se réjouir de ce qu'on possède, comme disait Épictète, c'est-à-dire, encore une fois, être dans l'expérience, davantage dans l'expérience du présent et moins dans le remords et dans la culpabilité. Le remords est un petit peu différent du regret, au sens où le remords, c'est le sentiment qu'on a mal agi, et c'est ça qui est source d'une culpabilité dans le présent, qui est un véritable poison. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a des expériences de psychologie expérimentale qui ont été faites dans le Massachusetts avec des souris. Je pense que Mathieu Corbin est sûrement au courant de ces expériences, où on teste des souris et on voit celles qui ont des regrets qui n'en ont pas. Vous savez, elles sont dans deux labyrinthes différents avec des fromages. Et il y a les souris qui regrettent le fromage qu'elles n'ont pas choisi et les souris, par contre, qui jouissent du fromage qu'elles ont choisi. Eh bien, les souris qui sont dans le mauvais labyrinthe et qui sont des souris qui regrettent meurent plus vite que les autres.
Le reportage, d'ailleurs, de Thomas Chauvineau sera consacré à ce thème. Mais je vous voyais attentif lorsqu'il a été question de remords et de regrets. Avoir des regrets avant de mourir, Roger Paul Droit, la différence entre remords et regrets ?
Oui, je pense que le remords a une culpabilité qui peut, dans une certaine manière, être positive si elle aboutit à un changement de conduite ou à... Mais le remords du « j'aurais », de tout ce que j'ai raté, alors que je ne peux plus agir dessus, c'est véritablement une passion triste, négative et sans intérêt. C'est une espèce de tristesse d'un bien perdu que nous désespérons de recouvrer. C'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza dans ce qu'il dit du regret dans le court traité. C'est-à-dire quelque chose que l'on rumine de négatif en s'attristant alors que ça ne débouche sur rien et sur aucune modification.
Ce qui est bien différent de la nostalgie qui est en fond le bonheur d'être triste hein, d'une certaine façon et d'évoquer avec tristesse.
Tout à fait.
Et l'on écoute Zoufris Maracas et Si Demain, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin. Et tout de suite après le disque, nous continuerons à évoquer les regrets, les remords avant de mourir.
J'ai arrêté de boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu, et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction où le vent me mène, et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la nuit, et si demain ma gourmandise faisait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires, et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin de que dalle. Et si demain est plus de guerre, plus de flics et plus de soldats, que les humains à part entière, plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire, rien que les gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec deux jambes et puis deux bras, 32 dents et des choses à faire. Pourquoi pas se prendre dans les bras? Enfin baisser les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures et des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi.
Service public sur France Inter, les regrets avant de mourir. Comment mourir sans remords ni regrets? Nous sommes en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Eiffez, de Roger Paul Droit, philosophe, lequel publie Si je n'avais plus qu'une heure à vivre aux éditions Odile Jacob, Mathieu Corbin, psychothérapeute comportementaliste, professeur à Paris 8, vous publiez Vivre sans regrets, mourir sans remords aux éditions du Seuil. Serge Eiffez, le fait de mourir est une angoisse qui naît dès les premiers moments.
Oui, bien sûr. C'est parce que l'angoisse de mourir, c'est l'angoisse de la séparation. Le nourrisson qui est au bras de sa mère et qui est laissé un moment dans son berceau avec sa mère qui s'éloigne connaît la première angoisse de la séparation, qui est une véritable angoisse de mourir. C'est la terreur de l'effondrement psychique. Hein.
Nous sommes un peu perturbés parce qu'Elisabeth Lévy vient d'arriver. Bonjour, Elisabeth. Tout va bien. Bonjour, Elisabeth Lévy. Vous êtes la directrice du magazine Causeur et vous publiez, je le disais en introduction de cette émission, un livre étonnant, Retour au bercail, avec un sous-titre « J'étais de droite et je me suis soigné aux éditions La Découverte ». Expliquez-nous comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre qui est donc un témoignage.
Oui, alors j'ai essayé de mettre une petite blague dans le titre ou dans le sous-titre, mais évidemment c'est quand même un sujet un peu difficile et un peu personnel, et je dois dire que Je crois que j'ai à la fois, j'ai entendu de très vaguement, la fin, je crois que j'ai à la fois des remords et des regrets, j'ai entendu dans le taxi. Et voilà. Écoutez, il faut quand même que je vous raconte comment c'est venu, parce que c'est un peu curieux. Il se trouve que je suis fumeuse et j'ai tout essayé, l'auriculothérapie, la musique, les arômes, tout ce que vous voulez.
Vous auriez peut-être pu essayer l'hypnose.
Voilà.
Vous avez fait une émission
et
sur
même
l'hypnose,
la volonté. J'ai même essayé la volonté. Et donc, un jour, un ami m'a parlé d'un comportement comme monsieur, je crois, qui faisait des miracles.
Mathieu Corbin.
Voilà. Et non, mais c'était pas Mathieu Corbin, c'était un autre. Et donc, je vais le voir pour arrêter de fumer. Et bon, dans des circonstances qui seraient un peu trop longues à expliquer, on en est venu assez vite à des questions identitaires. Et il a remarqué que je n'arrivais pas à prononcer la phrase « je suis de gauche ». Je n'arrivais pas à le dire.
Vous n'arrivez pas à dire « je suis de gauche ».
Non, je n'arrivais pas à le dire. Et en fait, bon, je suis désolée, c'est un peu personnel, mais... Et finalement, en travaillant avec lui, on s'est rendu compte que je combattais quelque chose en moi, que je combattais, excusez-moi, ça a l'air un peu... Enfin, je combattais ma bonté un peu naturelle, ma générosité, ma bienveillance pour le reste de l'humanité.
Je vois qu'il a bien soigné votre self-esteem, en tout cas, Elisabeth Lévy.
Voilà, et je dois dire, non, mais écoutez, ça, oui, vous plaisantez, je comprends que vous plaisantiez, mais enfin... Et voilà, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors après, il y a eu bon, quelques autres étapes. Alors le titre...
Parce que ça n'a pas été simple dans Retour au bercail. J'étais de droite et je me suis soigné. Le livre que vous publiez, Elisabeth Lévy, vous dites que lorsque votre thérapeute vous a dit qu'en réalité vous étiez de gauche, vous l'avez mal pris, vous l'avez insulté. Vous lui avez même dit d'aller crever en écoutant France Inter et les Inrocks.
Oui, c'est un peu vrai. Je présente mes excuses, évidemment, à tous les journalistes de France Inter que j'ai dû calomnier. Oui, c'est un peu ce que je lui ai dit. J'ai peut-être pas dit crever quand même, parce que. Mais enfin, je suis partie ce jour-là,
c'est
très
ce
en
que vous
colère.
Écrivez,
et vous savez comment ça marche, finalement. On réfléchit, on se dit que peut-être. Et puis alors, il y a eu deux, trois autres éléments, et notamment, je me rappelle avoir vu, alors je ne me rappelle plus qui c'était, peut-être Clémentine Autain, ou peut-être Anne-Sophie Maillefer de Oser le Féminisme, ou peut-être même Madame Boitard, qui parlait du harcèlement moral.
Pascal Boitard, qui c'est-à-dire, est actuellement secrétaire d'État aux affaires...
aux droits des femmes, qui parlait de harcèlement moral. Et si vous voulez, c'est vrai, moi j'ai toujours défendu les compliments un peu grivois. J'aimais bien quand un homme me disait dans la rue, oh, vous avez de jolies jambes ou de jolis yeux ou un joli nez, ce que vous voulez. Et
oui,
je me suis rendu compte que j'étais aliénée à cette image de la femme, disons, comme objet sexuel, que j'étais aliénée à cette image de frivolité, qu'il fallait plaire, être coquette et tout ça. Tout ça, oui, tout ça a fini. Alors, je vais pas vous le faire thème par thème, mais c'est vrai que tout ça m'a quand même fait réfléchir. Et finalement, mon seul regret, en fait, aujourd'hui... Alors d'abord, évidemment, c'est d'abord été aussi longtemps, peut-être, dans cette erreur, mais mon seul regret, c'est de toujours fumer.
Alors, on va pas raconter Retour au bercail, le livre que vous publiez donc aux éditions de La Découverte, Elisabeth Lévy. Il y a une histoire d'amour platonique avec un homme de gauche, avec qui ça n'est pas simple, donc vous racontez à la fois le refus au début de le toucher, et puis bon, vous expliquez cela, la différence qu'il y a entre vous, qui en quelque sorte rend difficile l'érotisme. Roger Paul-Droit, vous souhaitiez
réagir ? Non, je me disais simplement que en écoutant Elisabeth Lévy, je comprends pourquoi c'est aux éditions La Découverte, parce que c'est une découverte d'elle-même et une découverte pour le lecteur, c'est ça qui est...
Oui, et puis si vous voulez, c'est finalement quand même une sorte de chemin de vérité, il faut le dire. Alors oui, il y avait cette question de l'altérité, si vous voulez, qui est tellement difficile à droite, c'est tellement difficile, si vous voulez, d'entendre l'autre et de... Et c'est vrai que j'étais complètement enfermée, au point même d'aller jusqu'au fait, effectivement, que je ne pouvais pas... Enfin, bon, je ne veux pas rentrer, excusez-moi.
Vous avez découvert que vous aviez un inconscient de gauche, finalement. Mais d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si l'inconscient n'est pas plutôt à gauche qu'à droite.
Bah, si l'inconscient
Parce que vous
dit
vous
la vérité...
À gauche.
Si l'inconscient
plutôt,
dit la vérité,
forcément.
Je dirais aujourd'hui, oui, mais
bon...
L'inconscient
est du côté de la bonté naturelle de l'homme.
Oui, hein. Mais si l'inconscient dit la vérité, sans doute est-il à gauche, mais on va me dire que j'ai les ailes déconverties, alors je ne veux pas non plus trop en faire.
Nous avons une auditrice
j'ai gardé des amis
au
droite.
Standard, une auditrice, je vois sur l'affiche, Sophia. Bonjour,
oui.
Sophia.
Allô ?
Oui, bonjour.
Guillaume Hernel, oui, c'est Sophia Aram.
Ah, fin, bonjour, mais... Sophia.
Ben, écoutez, je me suis précipitée sur mon téléphone, je pouvais pas rester là sans rien dire. Je viens d'entendre le témoignage d'Elisabeth Lévy, je suis complètement estomaquée, je suis et puis bouleversée. Je trouve ça à la fois émouvant puis surprenant. Enfin,
oui, effectivement, on est tous un peu surpris par ce livre, Retour au Bercail.
Est-ce que je peux juste Elisabeth m'entend ?
Oui, je vous entends, oui. Sophia.
Alors excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir un exemplaire dédicacé, parce que je suis, j'ai envie de le lire, j'ai envie de.
Je vous remercie évidemment, Sophia, vous en aurez un exemplaire. D'abord, je suis très contente que Guillaume me donne cette occasion. J'ai voulu venir à France Inter pour la première première émission. J'ai tenu à ce que ce soit ici et je serais évidemment ravie, chère Sophia Aram, de vous dédicacer un exemplaire, car peut-être. Avez-vous aussi contribué d'une certaine façon à cette évolution ? Je crois qu'il ne faut pas l'exclure.
Je suis flattée, vraiment. Enfin, merci, Guillaume. Je passerai chercher l'ouvrage, mais parce que, ce que je voulais aussi dire, c'est que puisqu'on en est à parler de choses un peu intimes.
Eh oui, les remords, les regrets, c'est un moment de vérité, Sophia.
Il s'est passé quelque chose, vous savez, enfin, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, nous ne sommes pas à l'antenne, et je suis passée dans le bureau de Thomas Legrand, et je m'ennuyais un peu, et du coup, je lui ai emprunté un ouvrage qui était sur la pile des livres qui trônent sur son bureau, et je suis tombée sur un livre qui m'a bouleversée, je lui ai emprunté, je l'ai chouré, mais, j'ai été séduite par la photo qui est dessus, c'est Geoffroy Didier.
Geoffroy Didier, d'accord.
C'est La Fronde Nationale.
Oui.
Et alors, franchement, Guillaume, mon premier regret, ça a été de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Uh-huh. Et puis le second, c'est de ne pas avoir ma dédicace à moi. Parce que, Thomas n'est pas là, mais je voulais juste vous lire la dédicace. Je peux
Allez-y, oui. Enfin, c'est un peu personnel, mais bon, vous voyez, c'est le moment un peu des aveux. Allez-y, Sophia.
Alors, je lis. Hein, c'est la dédicace de Geoffroy Lillet à Thomas Legrand. Mon Toto, ma tomate en velours côtelé, mon petit Legrand.
Ah, ben, c'est d'accord.
Je pense qu'ils sont intimes.
Oui, ça...
Voici mon premier ouvrage, qui ne sera naturellement pas d'accord avec toutes mes idées, mais tu seras sûrement sensible à mon massage. Mon message. C'est écrit petit. Si nous voulons faire barrage au Front National, il est devenu urgent que les responsables publics entendent la Fronde Nationale qui gronde actuellement dans notre pays. Voici donc un appel à un électrochoc à droite. Tu es le seul dans ta radio de gauchiste à me comprendre. Des poutous partout. Et voilà, c'est signé Jojo. Et moi, honnêtement, ce livre m'a bouleversée. J'ai découvert un Geoffroy Didier poète. Et il aime la France. Et figurez-vous qu'il le dit en vers. Est-ce que j'ai encore un tout petit moment. Je voudrais juste vous lire un tout petit passage.
Oui, Sophia.
Tout petit, hein. Après, j'arrête. Non, mais vous le regretteriez si je ne le faisais pas. Alors, j'aime la France. Je lis. Hein. J'aime la France avec ses fiertés, ses honneurs, mais aussi ses travers et ses humeurs. Lorsqu'elle dit non à ceux qui l'occupent, la déforme ou l'instrumentalise. Notre pays est fragile, ébranlable, vulnérable, mais les Français sont résistants, surprenants et inclassables. La France est pétrie de ses apparentes contradictions. Le vote Front National y est une tentation, mais le film intouchable y fait un carton.
Voilà. Merci, Sophia Aram. C'est effectivement un bel extrait. Et merci surtout d'avoir rappelé comme ça, spontanément, Serge Hefez, ce moment de vérité, ses aveux, l'aveu d'Elisabeth Lévy, très engageant, celui de Sophia Aram. Est-ce la perspective de réfléchir à la mort qui, finalement, est en quelque sorte une méthode de vérité ?
Ah oui, la mort, c'est effectivement l'ultime moment de vérité. C'est le moment où, comment dire, tout le refoulé revient à la surface. C'est-à-dire tout ce qu'on a emmagasiné dans l'inconscient de désirs inassouvis, de vérité aussi par rapport à soi-même, peut ressurgir. Et moi, je suis très ému et bouleversé par le témoignage d'Elisabeth Lévy qui, au fond, découvre la vraie part d'elle-même, sa vraie part authentique, qui évidemment ne peut être qu'une part de gauche.
Oui, Roger Paul-Droit. Moi, je voudrais poser une question à Elisabeth Lévy, parce que comment avez-vous fait pour tenir ce livre secret secret. Parce que finalement, il n'était annoncé nulle part. Bien évidemment, j'imagine que les pressions étaient très fortes.
Les pressions n'ont pas été fortes parce que, pour tout vous avouer, je n'en ai parlé à personne. Et...
Oui, mais je veux vous dire merci pour ce moment. Quoi.
Oui.
Parce que c'est un moment de confession, de vérité. Mais pour maintenir le blackout jusqu'à ce jour, vous avez dû déployer
J'ai un peu rusé, c'est-à-dire, je dois l'avouer, je dois demander pardon à mes camarades de causeurs, parce que bien entendu, quand même, il faudra que nous en discutions, mais je crois qu'on peut tout à fait faire un très bon causeur.
Martine Aubry est à la une de causeurs ce mois-ci, c'est Marine Le Pen, avec un Français sur quatre, mais au moins pas vous.
Ça, je ne fais certainement pas partie de ces Français, mais juste pour vous dire, c'est que ça a été quand même, Roger Paul-Droit, quand même très douloureux et c'était un moment très bouleversant.
Nous avons un autre auditeur au standard, Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous, c'est Thomas. Thomas Legrand.
Thomas Legrand. Ah, bonjour Thomas.
J'ai entendu Sophia et donc j'ai appelé. Déjà pour dire que c'est pas bien de voler dans mon bureau, mais bon, je voulais surtout commenter...
Vous faites bien pire dans votre bureau, Thomas, d'un côté. Hein.
Oui, ben justement, n'en parlons pas. Mais je voulais commenter la conversion d'Elisabeth Lévy.
Oui.
Et dire à quel point je suis bouleversé. Et en fait, voilà, Elisabeth et moi entretenions des rapports un peu épistolaires, et je pensais que j'étais... je peux l'avouer maintenant, que j'étais sur le point de conclure. Parce que Elisabeth... n'avait pas peur d'être cette femme séductrice, féminine, un peu graveleuse comme elle le disait. Et moi,
grivoise.
Là, je suis entouré que de filles et de femmes qui nient leur féminité par égalitarisme.
Votre femme appréciera, Thomas.
Et maintenant, si elle-même passe du côté des féministes asexuées, eh ben ça me
je suis un peu triste, Thomas, parce que je n'exclus pas non plus que vous, avec qui effectivement nous entretenions ces relations épistolaires, que vous ayez participé à ma prise de conscience et peut-être que ce rapprochement possible est joué. Alors je suis un petit peu triste maintenant de ce que vous me dites.
Écoutez,
Thomas, c'est mon cœur qui a parlé. Je peux pas.
J'ai une analyse politique parce qu'en fait, je ne pense pas qu'Elisabeth Lévy soit passée de droite à gauche. Simplement, Elisabeth Lévy ne supporte pas le politiquement correct. Elle ne supporte pas le politiquement correct. Or, aujourd'hui, le politiquement correct a changé de camp. C'est-à-dire, politiquement correct, c'est penser que combattre le racisme, ça commence à suffire, que le sexisme, finalement, c'est pas mal. Et donc, du coup, elle revient dans la minorité et elle combat le nouveau politiquement correct.
On vous communiquera vos téléphones hors antenne. On va écouter Elton John et Charles Aznavour « Hier encore ».
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la mort, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, le cœur mis en terre. Et encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même à le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis. Je voulais le bon pour critiquer le monde.
avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Pas ma faute, je fais la vie autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Service public sur France Inter, les regrets avant de mourir. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Lévy, qui dirige le magazine Causeur et qui a publié « Retour au bercail, j'étais de droite, comment je me suis soigné ». Roger Paul Droit, philosophe, qui publie « Si je n'avais plus qu'une heure à vivre », notre psy du mercredi, Serge Éphèse, et Mathieu Corbin, qui est psychiatre et comportementaliste, qui publie « Vivre sans regret, mourir sans remords ». Et vous expliquez, Mathieu Corbin, dans votre livre, que vivre sans regret, c'est possible, Mathieu Corbin.
Ah oui, on sait mieux de... parce qu'on peut... c'est mieux que de regretter de vivre, par exemple, ou d'être né.
Peut-on guérir de ces regrets? Parce que vous revenez beaucoup là-dessus dans votre bouquin. Qu'en est-il, selon vous?
Oui, on peut. Enfin, moi, j'ai soigné pas mal de regrettants, par exemple. Pas toujours assez rapidement, en fait. Hein. Des fois, je le regrette, parce que ça prend du temps. Mais j'ai pas vraiment de remords pour ça. Non. Non, ça va.
Un exemple de personne dans ce cas-là que vous auriez soigné?
J'ai pas le droit, moi, de révéler le nom de mes patients.
Ah oui, c'est de la déontologie.
Mais par exemple, vous voulez un exemple?
Vous pouvez.
Alors sans le nommer. Hein. Bon, je me souviens d'un ancien ministre du budget. Établi en Suisse maintenant et qui vit ça très bien maintenant.
Et alors, quelle différence faites-vous, Mathieu Corbin, on en a parlé tout à l'heure avec Roger Paul Droit, entre regret et remords?
On peut avoir des regrets sans remords, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Moi, je pourrais regretter de ne pas être suffisamment clair, par exemple, dans ma réponse.
Vous pourriez, effectivement.
Alors que vous pourriez aussi regretter d'avoir posé une question sans remords, une question
d'accord.
comme ça, et que vous pourriez être amené à regretter, en fait. Et du coup, j'appelle ça, en fait, l'économie du regret. L'économie du regret, il y a une économie du regret. L'économie du regret, c'est pas très compliqué. Il y a un cours du remords. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, un remords, ça vaut 10 regrets à la louche. C'est à peu près. Hein. Le cours change, en fait. Mourir avec des remords, c'est surtout mourir deux fois. Remords.
Ah oui, remords. Ça plaît à Serge Éphèse.
Oui,
c'est la cagnotte, remords.
J'adore.
On est vraiment dans l'ordre du remouru. Ça, c'est pas bon. Vous voyez la mort? C'est pire.
Comment fait-on en conclusion, selon vous, Mathieu Corbin, puisque votre livre propose des solutions pratiques pour ne pas avoir de regrets à ce moment où on vit sa mort?
Il ne faut pas garder. Faut dire. Moi, j'appelle ça le dire à chaud.
C'est vous qui avez écrit 50 nuances de regret.
Oui, pas loin. Mais c'est, on fait dans le dire à chaud. Faire dans le dire à chaud, c'est quand on se libère de tout ce qui pèse, mais à chaud. Un peu comme si, par exemple, quand vous allez aux toilettes après avoir mangé chinois, par exemple. Et ben, vous, tout de suite après, paf, tac, vous sentez que ça gargouille, et là, paf, le dire à chaud. Vous voyez ? Par exemple, c'est bon, je suis clair. Par exemple, et vous comprendrez que je taise le nom de cette regrettante.
Oui. Ouais,
mais il y a quelques mois, j'ai été amené à aider une ex-première dame à se libérer de ses aigreurs par la technique du dire à chaud. Elle a dit à chaud. Et quand on lit son livre, on voit tout de suite qu'elle a tout libéré d'un coup. Il y avait D'accord. du dire à chaud partout.
Bon, je vois, ouais. Effectivement, je crois que les auditeurs ont compris de qui il s'agissait. Alors, on continue à évoquer le regret, le remords. Notre reporter Thomas Chauvineau est allé à la rencontre d'un scientifique, un scientifique qui a isolé, figurez-vous, le gène du regret.
Bonjour, je cherche le professeur Séraphine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes France Inter ?
Non. Bonjour.
Écoutez, bienvenue au département de recherche cognitive, laboratoire des neurosciences.
Merci.
Voilà, donc là, vous le voyez, hein, tout ça, c'est nos petites expériences en cours. Voilà. Ici, alors, vous venez, donc, ça, ce sont les petites cages.
Attendez, je vous suis.
Voilà. Oui. Ça, c'est les petites cages à souris. Voilà.
Et alors, justement, comment vous avez pu identifier chez les souris qu'elles éprouvaient, par exemple, le regret?
Oui, alors, identifier, on va tout de suite mettre des guillemets, c'est-à-dire qu'on a pris 80 souris, on leur a mis un morceau de fromage très, très régulièrement, à heure donnée, toutes les 3 heures, un petit morceau de fromage, et ensuite, on s'est amusé à le supprimer. Reliés à des électrodes sur les cerveaux des petites souris, nous sommes aperçus que les souris qui n'avaient pas consommé le petit bout de fromage une fois qu'il était enlevé, eh bien tout simplement ça activait des zones du cerveau. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le coup, il y a une zone de l'hypothalamus qui s'active, on le voit avec l'imagerie cérébrale, et on s'aperçoit que la souris, quand elle revient pour prendre son petit bout de fromage et que le fromage a été subtilisé, eh bien elle active une zone du cerveau qui correspond, on peut le dire, au regret.
On peut ouvrir la cage et prendre une petite souris. Enfin, je ne sais pas
voilà,
si ça se fait.
Si, bien sûr. Voilà.
Elle couille un peu. Et aujourd'hui, vous avez été capable d'annihiler, en quelque sorte, cette zone du regret chez la souris. De sorte qu'elle ne semble plus regretter la disparition de ce morceau de fromage.
Alors, ça, c'est dans une deuxième étape. Effectivement, on essaye, en stimulant certaines zones et des points très très précis du cerveau, on peut réussir à annihiler, on n'est pas sûr que ce soit annihilé, mais au moins faire disparaître de façon pour le moment temporaire, parce qu'il faudrait mener l'expérience sur plusieurs mois pour savoir si c'est définitif. Alors ça, voilà. Ça, c'est une petite souris, donc c'est un nouveau prototype de souris dont on a...
Donc celle-ci, elle éprouve plus, celle que vous avez dans la main, là, elle éprouve plus de regret.
Ben voilà, non.
Est-ce que cette zone serait la même dans le cerveau humain?
Alors, le paramétrage du cerveau humain et du souris sont...
On s'assoit.
Voilà, excusez-moi. Je vais remettre la petite souris, sont évidemment pas pareils, on ne peut pas comparer le cerveau, mais... Il y a quand même 60% de transmissions neuronales qui sont communes entre le cerveau des souris et les hommes. Donc à ce titre-là, on peut imaginer effectivement qu'on pourrait établir une comparaison et reproduire scientifiquement le même type de schéma avec un cerveau humain, effectivement.
Enfin, je veux dire, parce que justement, le regret, éprouver des choses, ça c'est le propre de l'homme, c'est ce qu'on dit, non?
C'est le propre, mais si vous ne croyez pas que ce sont des sentiments qui peuvent, au contraire, altérer et poser problème dans une société aujourd'hui. Le regret est une faille, aujourd'hui, dans le fonctionnement du cerveau humain. Le regret est quelque chose qui empêche l'action.
Donc Je suis désolé,
mais je vais devoir continuer, si vous voulez bien sortir.
On ne peut pas finir
le... Bien sûr, on peut sortir, mais là, j'ai encore pas mal de boulot à faire aujourd'hui.
Vous foutez dehors, ouais. Quoi.
Non, je vous en prie.
Voilà. Bon,
merci.
Merci.
Non, merci à vous. Voilà, mais si vous voulez déjà que vous apporte les réponses toutes faites, autant les faire vous-même. Voilà. Je vous remercie. Vous avez...
Vous regrettez pas l'interview quand même.
Écoutez, si je regrette d'avoir accepté, je n'aurais jamais dû. Merci.
Le reportage de Thomas Chauvineau sur le gène du regret. Le regret sans gène. Et nous avons un auditeur au standard. Rodolphe. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Guillaume. Alors écoutez, moi, je viens de vous appeler parce que non, rien de rien, non, moi je ne regrette rien. Enfin, quand même si, j'ai un regret, Guillaume, un seul, mais de taille. Voilà, bah, mon seul regret, c'est de ne pas être hétéro. Juste une fois, comme ça, pour voir. Pour avoir le plaisir, par exemple, de lire l'équipe en comprenant ce qu'il y a dedans. Découvrir le bonheur d'une petite comédie romantique qui soit moins plombante que Mort à Venise, Brokeback Mountain ou encore La vie d'Adèle. Non, c'est vrai, ça, pourquoi nos histoires, nous les homos, elles sont forcément graves, tristes et déprimantes. Ah, le bonheur d'être hétéro. Comprendre enfin la cage aux folles. Je regrette aussi de ne pas avoir une vie hétérosexuelle pour pouvoir enfin embrasser quelqu'un dans la rue sans finir ligoté au fond de la Seine avec une pierre au pied. Franchement, ça serait sympa. Je regrette aussi de ne pas avoir une vie hétérosexuelle pour concevoir un enfant sans être obligé de faire l'amour à un tube à essai. Franchement, c'est froid, ça passe pas, puis c'est pas ma taille. Adopter aussi, sans être le dernier sur la liste, oui, Guillaume, parce qu'il faut savoir que nous, les homos, on passe après les couples hétérosexuels mariés, les couples hétérosexuels non mariés, les femmes célibataires, les hommes célibataires, juste pour avoir enfin le bonheur d'adopter un enfant normal, quoi, avec deux bras, deux jambes, pas de casier judiciaire, et surtout moins de 35 ans, ce serait cool. Non, parce que oui, voilà, Guillaume, je l'avoue, j'aimerais être hétéro pour pouvoir adopter un enfant qui soit pas plus vieux que moi. J'aimerais aussi être hétéro pour savoir ce que c'est qu'une journée, une seule, où je prépare l'amour. À force, c'est crevant. J'aimerais aussi être hétéro pour demander dans un magasin si je peux passer par la porte de derrière sans qu'on pouve de rire à côté de moi. Pour avoir le bonheur de pratiquer une religion aussi, n'importe laquelle, sans qu'un prêtre, un rabbin ou un imam ne me regarde avec envie, tristesse ou dégoût. Avoir le droit de faire une blague misogyne ou sexiste sans que personne ne soupire autour de moi. Enfin, je regrette aussi de ne pas avoir une vie hétérosexuelle pour avoir un jour la sensation que la loi a été faite pour moi et que les droits de l'homme soient aussi un petit peu les droits de l'homo. J'aimerais tellement aussi être hétéro pour pouvoir enfin avoir l'occasion, une fois dans ma vie, de régler mes problèmes avec ma mère, de réparer mon évier et de savoir poser du lambris. Et enfin, pour terminer, Guillaume, moi j'aimerais aussi être hétéro pour avoir eu au moins une fois l'occasion d'avoir une relation homosexuelle cachée. C'est les meilleurs. Hein, Guillaume ?
Merci, Rodolphe. On continue à évoquer les remords et les regrets, Serge Effes, qui sont, j'imagine, l'une des raisons pour lesquelles on vient vous voir.
Oui, surtout les remords qui provoquent, comme on sait, la culpabilité. Et la culpabilité est quand même le principal frein à avoir une vie épanouie.
Un dernier auditeur est au standard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nicolas, sur votre fiche, bonjour Nicolas.
Oui, Nicolas Sarkozy, hein, vous pouvez le dire, c'est mon nom. Hein.
Nicolas Sarkozy.
J'habite à Paris.
Oui, eh ben c'est gentil de nous appeler. Quelque chose à nous dire de particulier?
Vous savez, vous parlez de regrets. Moi, si moi, vous savez, les Français ne m'attendent pas pour avoir des regrets. Si j'avais des regrets à formuler, ce serait certainement pas sur une radio gauchiste comme France Inter. Vous me voyez venir ici me lamenter contre Monsieur Thomas Legrand qui m'a traité de président qui nous fait tout perdre et Madame Aram qui m'a encore taclé de ce que j'avais dit sur les menus de substitution. D'ailleurs, Monsieur Guillaume pourrait dire à Madame Aram qu'elle devrait savoir que si je reviens, elle va manger chaud et cher.
Enfin, moi je tiens à vous dire quand même que France Inter est une radio pluraliste, Monsieur le Président.
Ouais, attendez, pluraliste, Monsieur Herner, pluraliste de gauche. Entre Monsieur Hollande et Monsieur Mélenchon, voilà. C'est du genre, faut-il combattre le capitalisme tout de suite ou immédiatement? Et je te parle d'écologie, puis de décroissance, Monsieur Herner. Hein, dès que je reviendrai au pouvoir, je vais remettre tout ça au pas. Hein. D'abord, Thomas Legrand ira immédiatement préparer les fiches pour Alain Barenton. Hein, il ira jardiner, ça lui fera du bien. Quant à vous, Monsieur Herner, je pense que vous irez avantageusement rejoindre le service des sports. Vous aimez le sport ?
Pas tant que ça. Vous devez tout de même avoir des regrets, Monsieur Sarkozy.
Absolument, des regrets. Regrets de ne pas m'être occupé suffisamment de France Inter. C'est vrai. Et d'ailleurs, oui, je compte briguer un second mandat pour réussir enfin à mettre au pas les médias gauchistes. Hein, je soutiendrai un projet de Radio France d'en bas, avec une vraie ambition pour France par terre, une radio musicale, muette et de droite.
Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. Cette émission touche à sa fin. Roger Paul-Droit, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais dire, jusqu'à maintenant, j'avais vécu sans regret, mais d'être venu à cette émission, ça m'en a véritablement produit, oui.
On va écouter David Séville, Witch Doctor, le docteur sorcière, c'est Serge Effes.
I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor he gave me this advice. He said that ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bing bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend the witch doctor, he taught me what to say. My friend the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend the witch doctor, he taught me what to say. My friend the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Come on and ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang.
Service public sur France Inter. Voici maintenant le mot du psy, un mot du psy un peu spécial puisque Serge Hefez a fêté ses 60 ans. Et figurez-vous que pour ses 60 ans, l'équipe de service public au grand complet lui a offert une interview par un drôle de journaliste. Écoutez.
Voilà, donc inconscient et subconscient, c'est une question de souplesse. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein, tout dans les genoux.
Bonjour.
Oui, bonjour, enchanté, Benoît Darmin de Radio Suisse Normande. Eh bien, écoutez, merci Serge Hefez de répondre à nos questions. Tout d'abord, j'ai lu votre livre, Le Nouvel Ordre Sexuel, que j'ai trouvé formidable.
Merci beaucoup.
Et j'aurais aimé vous poser une première question déjà. Donc vous êtes psychologue?
Non, psychiatre.
Psychiatre.
Oui.
Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes médecin.
C'est ça, oui.
Oui, d'accord. Mais vous ne soignez pas les grippes quand même.
Ah non, je suis
d'accord.
Médecin psychiatre.
D'accord, très bien. Ok. Une petite question pour démarrer. Pourquoi est-ce que vous êtes contre le mariage gay en fait? J'ai pas vraiment saisi les raisons de votre opposition au mariage gay.
Non, je ne suis pas contre le mariage gay. Au contraire, j'ai beaucoup milité et beaucoup œuvré pour que le mariage gay puisse advenir. Ce qui me paraît un peu paradoxal, je dirais, dans le mariage gay, c'est qu'il faille passer aujourd'hui par le mariage pour pouvoir établir une filiation et pour pouvoir fonder une famille et pour pouvoir avoir des enfants. Alors que depuis pas mal de temps, le mariage n'est plus nécessaire pour établir une filiation et pour devenir les parents d'un enfant. Donc, bien évidemment, mariage gay, très bien, mais là encore, il y a une réalité à deux vitesses pour les homosexuels et les hétérosexuels. Ils sont obligés de se marier pour pouvoir établir une filiation.
D'accord. C'est un peu un souci pour nous, parce qu'on était sûr que vous étiez contre.
Ah, mais pas du tout.
Vous ne pouvez pas être un petit peu contre quand même.
Ah, vraiment pas. Non. Je l'ai défendu jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas comment je pourrais être contre. Hein.
Ah oui, d'accord. Même pas de réserve, en fait.
Non, la seule réserve que je vous donne, c'est celle que je vous ai donnée. Oui.
Ah ok, d'accord. Bon, peut-être une question plus générique. Pour vous, c'est quoi un homme, en fait? Voilà.
Un homme, je dirais que c'est un être humain qui s'identifie à certaines valeurs dans la société dans laquelle il vit et qu'ils sont étiquetés des valeurs masculines, ce qui veut dire que ça n'est pas du tout la même chose d'être un homme dans des pays, disons, de culture traditionnelle, dans lesquels l'homme se doit d'assumer une supériorité extrêmement forte sur les femmes, voire un asservissement des femmes dans la société, et d'être un homme dans des sociétés plus démocratiques qui va plus être prôné à une certaine égalité, une certaine fluidité des caractéristiques masculines et féminines.
Oui, d'accord, je comprends. En fait, un homme, par exemple, en Suisse, c'est pas exactement la même chose qu'un homme en France, par exemple.
Oh, je suis pas sûr qu'il y ait des différences fondamentales entre la Suisse et la France, mais enfin, si on s'y penche, peut-être qu'on en trouvera des petites.
Oui, pour les femmes, je vous assure qu'elles sont vraiment différentes.
Oui. Les femmes suisses, des femmes françaises, vous voulez dire?
Oh, oui. Vraiment, vraiment. Enfin, vous les connaissez bien, mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment différentes. Est-ce qu'il faudrait faire des statistiques ethniques sur les homosexuels? Voilà, est-ce qu'on peut suivre un petit peu mieux l'homosexualité grâce à des statistiques qui permettraient finalement de mieux connaître cette population?
Et j'ai du mal à saisir quel intérêt il peut y avoir sur des statistiques ethniques chez les homosexuels. Ça, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez.
Ben finalement, on sait depuis longtemps qu'on a du mal à suivre tout un ensemble de populations. Par exemple, les populations immigrées, c'est compliqué, etc.
Oui.
Parce qu'on interdit les statistiques ethniques.
Oui.
Visiblement, les homosexuels semblent être traités de la même manière. Et finalement, est-ce que c'est pas un obstacle à la connaissance réelle de leurs envies, leurs besoins, leurs pratiques, leur façon de vivre, etc.
Bah,
est-ce que... Non.
Chez les homosexuels, c'est pas sûr. Je suis d'accord. Les statistiques techniques, comme vous dites, peuvent avoir un intérêt dans certaines, par rapport à certaines études épidémiologiques. Par exemple, moi, je me suis beaucoup penché sur le sida et les risques de contamination par le VIH. L'interdiction des statistiques ethniques est souvent un obstacle épidémiologique pour savoir où mieux cibler et comment mieux cibler la prévention et l'accès aux soins, par exemple. Mais enfin, en matière d'homosexualité, je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça pourrait apporter.
D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je rappelle que votre magnifique ouvrage, Le Nouvel Ordre Sexuel, pardon, j'ai du mal à dire sexuel. Hein.
Oui, ça vous paraît un peu désordonné?
Oui, je sais pas.
Oui.
Il faudrait qu'on parle un petit peu tous les deux. Parce
en fait, c'est comme votre interview qui me paraît assez désordonnée depuis tout à l'heure, finalement.
Oui, en fait, c'est un sujet qui est un peu difficile pour moi,
oui.
Qu'on puisse en parler.
Ah ben ça, je veux bien, oui. Mais n'hésitez pas, venez m'en parler, je pense qu'effectivement, il y a des problèmes. Hein.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je garde votre numéro, à très bientôt.
Merci, je vous embrasse également.
Au revoir. À bientôt.
Allez, merci à tous. Merci à Benoît Cambillard qui s'est chargé d'interviewer notre Serge Éphèse national. Merci à Rodolphe Sand que vous retrouvez au Petit Palais des Glaces tous les jours à 20h à partir du 28 avril. Merci à Elisabeth Lévy. Qu'est-ce que ça vous a fait, Elisabeth Lévy, d'avoir été à gauche?
C'était formidable. C'est formidable d'être dans le camp du bien. On est meilleur que les autres. On peut dire des tas d'âneries. On se fiche du réel comme du tiers et du quart. Et on est bon. On est bon structurellement. Alors, je voudrais quand même dire une chose. Moi, j'ai beaucoup aimé votre Sarkozy et j'adopte sa définition de France Inter, une radio pluraliste de gauche. C'est formidable.
Bon,
mais
suffit.
Si je pouvais être de gauche
on
une nouvelle fois l'an prochain, j'adorerais ça.
Merci à Jacques Chirac qui est au téléphone.
Oui, ben je sais même pas pourquoi vous m'appelez. Hein. Ben je suis avec une vieille dame, là. C'est ma femme. Oh non, un truc comme ça, je m'en souviendrai. Hein. Ben, écoutez, je regrette peut-être une chose, de ne pas avoir tout dit. Eh bien, je vais tout vous dire sur Sarkozy, Balkany, Tibéri. Hein? Ah ben, excusez-moi, la vieille dame m'apporte à manger. Ce sera pour une autre fois.
Merci beaucoup, Didier. Gustin, merci à Elodie Piel, à Chantal de Montagnier, à Sophia Aram, à Thomas Legrand et à Roger Paul-Droit, qui était le seul homme sérieux. Si je n'avais plus qu'une œuvre à vivre, c'est votre livre aux éditions Odile Jacob.
Ça y est, elle s'est écoulée.
Sur la grève.